Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
13h04, salut à tous, c'est parti pour Motors, votre dose hebdomadaire de sport méca sur RMC. La Dream Team est là, The King est là, Jean Lecroix. Comment ça va, Jean-Luc? Salut.
Yes, formidablement bien. Écoute, les jours de Grand Prix, moi je vais toujours très bien. Et puis on va parler de plein d'autres choses. On va parler un petit peu du rallye où l'enjeu est important également.
Effectivement.
On va même parler de motocross et de supercross.
Ah bah tu me devances un petit peu. Au menu, effectivement, aujourd'hui le Grand Prix du Brésil, avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1. Entre les lacs de Sao Paulo sur le circuit d'Interlagos, le départ c'est ce soir à 18h10 à vivre sur RMC. Le titre est déjà joué chez les pilotes, pas encore chez les constructeurs. Tour de chauffe dans une petite minute. 13h25, des nouvelles de nos Français évidemment dans le Frenchies Corner. Leclerc, le monégasque, Grosjean, Gasly sont également dans le top 10 sur la grille de départ. Réaction mitigée, vous l'entendrez. Puis à 13h45, Benoît Boutron nous rejoindra pour Radio Paddock avec au menu de la moto et une très belle épreuve à venir le week-end prochain, le Supercross de Paris au Paris La Défense Arena. C'est Marvin Musquin, pilote français de MX et de SX, vice-champion des États-Unis 2018, qui sera avec nous tout à l'heure. Il va se réveiller tôt puisque il est en Floride. On parlera avec lui évidemment donc de cette épreuve de moto. On parlera également effectivement du WRC, le rallye d'Australie la semaine prochaine, décisive sans doute pour l'obtention du championnat du monde, du titre de champion du monde des pilotes entre Sébastien Ogier et Thierry Neuville. C'est parti pour Motors. Et on va d'abord faire un petit tour au football parce qu'on joue en Angleterre, la première ligue, 12e journée du championnat d'Angleterre. Salut Jordan Olivier.
Salut Arnaud, salut à tous. 5 minutes de jeu effectivement, Anfield toujours 0-0 entre Liverpool et Fulham. Liverpool qui reste sur une défaite surprenante en Ligue des Champions cette semaine face à l'Étoile Rouge de Belgrade et qui va devoir se relever en tout cas en championnat cette semaine face à Fulham. Fulham, lanterne rouge de cette première ligue. Donc a priori un match facile pour les Reds, faudra le prouver sur le terrain en tout cas. 6 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Liverpool et Fulham.
Match de la 12e journée de Première Ligue.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Ah oui, on va chauffer les pneus avec Adrien Tambay qu'on accueille de la Dream Team. Salut Adrien.
Salut Arnaud, salut à tous.
Et notre
salut
envoyé Adrien. Spécial au Brésil, au bord du circuit, Lucas Vinois. Salut Lucas.
Salut Arnaud, salut Jean-Luc, salut Adrien, bonjour à tous.
On va dérouler la grille. D'abord, je suis obligé de te demander, Lucas, les conditions météo là aujourd'hui à 5h désormais du départ de ce Grand Prix, quelles sont-elles et surtout quelles seront-elles pendant la course?
Veux-tu vraiment qu'on se mouille? À chaque fois, on est à côté de la plaque. Donc, on est entre les lacs, ici à Interlagos. Ça change très vite. 10 minutes avant les qualifs, il faisait grand beau. Et 10 minutes après, le ciel était tout noir. Donc, pour l'instant, il fait beau. Je ne peux rien vous garantir pour la piste. Ce qu'on annonce, c'est 40% de risque de pluie pendant la course. Mais voilà, c'est toutes les informations qu'on a. On va pas trop se mouiller. Voilà, une chance sur deux.
Non, mais je le comprends, le pauvre. C'est vrai que là, la grenouille brésilienne, elle est un peu particulière, tu sais. Elle danse la samba, donc effectivement elle monte deux échelles, elle redescend et puis comme on l'a dit, c'est entre les lacs. Interlagos, tu l'as bien souligné, donc effectivement le temps est très changeant, notamment à cette saison dans l'hémisphère sud.
Voilà, donc on verra effectivement tout à l'heure ce que ça donne, 40% de risque de précipitation. Allez, ça nous fait 60% de risque qu'il n'y ait pas de précipitation. On va dérouler la grille si vous le voulez bien, messieurs, à commencer par la première ligne de ce Grand Prix du Brésil. Hamilton qui a réalisé la pole position devant Sébastien Vettel. Décidément, c'est un duel jusqu'au bout et un duel qui jusqu'au bout semble tourner à l'avantage du Britannique.
82e pole position de la carrière de pilote de Formule 1, la 10e de la saison. Je crois qu'encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est un phénomène absolu, Lewis Hamilton. Il faut bien s'en rendre compte, d'autant que l'écart est limité à 93 millièmes, c'est-à-dire que c'est une lutte au couteau. Les Ferrari fonctionnent très bien sur ce tracé et tu l'as dit, on va retrouver les deux principaux protagonistes, même si c'est fini maintenant pour Vettel. Et moi, je pense que c'est un duel d'honneur, là, véritablement, qui va opposer les deux hommes. On sait que tout peut arriver au Brésil parce que le circuit s'y prête bien. rien.
Oui, Jean-Luc, un duel d'honneur, je suis d'accord, mais c'est aussi un duel mental qui continue et en vue de la saison 2019, parce qu'on sait, très bien que c'est très important de finir de la meilleure des façons. C'est ce qui reste dans les esprits et Sébastien Vettel se doit dans la bataille qui va l'opposer probablement aussi l'année prochaine à Lewis Hamilton et aussi à son nouveau coéquipier Charles Leclerc d'être dans la meilleure des états d'esprit pour 2019. Donc voilà, maintenant marquer son empreinte peut-être sur cette fin de saison, ces deux derniers grands prix, c'est important pour lui et il n'est pas dans la plus mauvaise des situations puisque hier Ferrari a fait un choix stratégique risqué et on va en parler.
Ouais.
Mais ils sont dans une bonne position aussi au départ, même s'ils sont pas en pôle.
Marquer son territoire en quelque sorte, on l'entend bien. Lucas, justement, c'est quoi l'état d'esprit des deux pilotes et particulièrement celui de Sébastien Vettel? Parce qu'on imagine que Lewis Hamilton est tout à fait détendu.
Oui, bah c'était un petit peu particulier hier pour Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, puisque Lewis Hamilton ne savait pas vraiment s'il allait prendre une pénalité par rapport à ces deux manœuvres un petit peu douteuses pendant la qualification, on y reviendra. Et Sébastien Vettel, lui aussi, a eu une situation un petit peu particulière. Il a dû passer à la pesée, ça ne lui a pas plu, donc pareil, il était convoqué par les commissaires. Donc ambiance un petit peu spéciale, mais Lewis Hamilton était très heureux d'être en pole position. Bon, il commence un peu à être habitué, hein. C'est la 82e comme le disait Jean-Luc, donc bon, il saute pas de joie à chaque fois qu'il fait une pole position. Vettel était un petit peu déçu d'échouer si proche de Lewis Hamilton, mais content d'avoir un choix stratégique différent pour pouvoir essayer d'aller chercher la Mercedes du Britannique.
Tiens, avant de parler du choix stratégique, peut-être on va écouter Lewis Hamilton, le pilote britannique, auteur de cette pole position.
Au niveau du choix de pneumatiques, ce n'était pas évident. Il pleuvait, ce n'est jamais facile d'opter pour la bonne stratégie dans ces conditions. Partir avec les pneus super tendres, ce n'est pas l'idéal. Pourtant, nous avons essayé avec les pneus tendres. Je pense que la différence entre les deux types de gomme n'est pas énorme. Bien sûr, nos pneus dureront moins longtemps que ceux des Ferrari, mais nous sommes devant sur la piste et il sera difficile de dépasser. Peut-être que nous avons finalement la stratégie optimale.
Alors là, il est dans la position évidemment idéale, hein, Lewis Hamilton, d'abord. C'est lui qui détient la pole et on sait, il faut le rappeler au Brésil, que c'est un circuit qui est assez peu utilisé dans la saison, donc c'est important d'être sur la bonne trajectoire, premier point. Deuxième point, c'est un départ en montée, il y en a pas beaucoup, il y a l'Autriche également, donc on peut effectivement être amené pour les pilotes à commettre une petite erreur supplémentaire, et puis il est champion du monde, donc c'est un grand prix pour le plaisir et pour l'honneur. Évidemment, la pression, comme nous le disions, elle est sur Vettel. Je parlais de question d'honneur tout à l'heure, c'est-à-dire que Vettel, il n'a plus gagné de grand prix depuis très longtemps maintenant, depuis le mois de septembre, et il a été écrasé, on peut le dire, moi j'ose le dire, par Hamilton, notamment moralement. Il va falloir qu'il reprenne la main et qu'il démontre que certes le titre est perdu, mais la Ferrari avait du potentiel, puis il doit rendre au tifosi, là il doit rendre une victoire avant la fin de la saison. Il reste que deux occasions.
Adrien, là-dessus.
Oui, je rejoins Jean-Luc totalement sur ce qu'il dit, et c'est vraiment une question d'honneur, parce que il a été écrasé, surtout l'aspect mental, hein.
Oui.
Où il a été dominé par Lewis Hamilton à partir de la moitié de la saison. Lewis Hamilton est rentré, a fait un step vraiment en performance, et en plus de ça, zéro erreur tout le long, et à l'inverse de Sébastien Vettel qui lui poussait dans ses retranchements à cesser d'en faire, et des erreurs quelque part un peu d'inexpérience qui montrent bien que c'était des erreurs dues à la pression que Lewis Hamilton lui a donné.
On peut revenir peut-être en un mot, parce que on l'a évoqué sur l'incident, et ça aurait pu être un grave accident qui a opposé Lewis Hamilton à Sergei Sirotkin. Lucas, tu vas évidemment avoir d'autres explications probablement plus précises, mais quand on voit l'image, on se dit, ah bah oui, Hamilton, il est fou, il change de trajectoire alors qu'il n'est pas rapide, et qu'un pilote arrive dans un tour lancé. Ça n'est pas ça. Les deux pilotes sortaient des stands, c'était ce qu'on appelle un tour out, hein, ils étaient en train de monter en température, mais pour d'autres raisons, Sirotkin devait être tout de suite en action pour faire un temps, ce qui n'était pas le cas d'Hamilton. On peut parler de mésentente, voire d'incompréhension, Lucas, dans un cas comme celui-là?
Oui, bien sûr. Mais c'est une mésentente, mais c'est souvent le cas en qualification. C'est rare qu'un pilote veuille sciemment bloquer un autre. On a très rarement vu ça. Le problème, c'est que en effet, Hamilton s'est décalé un petit peu tard. Sirotkin arrivait très très vite. Le différentiel de vitesse entre les deux hommes était vraiment important, et donc la manœuvre a été impressionnante. Et puis après, Hamilton a redoublé Sirotkin dans la ligne droite. Enfin bref, c'était un petit peu particulier. Certains ont pensé qu'il fallait peut-être ouvrir une enquête, peut-être même pénaliser Lewis Hamilton. Moi, je reviendrai plus sur l'incident avec Kimi Raikkonen, où Kimi Raikkonen est dans un tour lancé, ouais, et là Lewis Hamilton, lui, n'est pas dans un tour lancé, et il est sur la trajectoire, ou alors au milieu de la piste. Et ça, ce n'est pas forcément acceptable. juste un point de comparaison, Vettel en Autriche a gêné Sainz un petit peu de la même façon, il avait pris 3 places de pénalité. Bon là les commissaires se sont montrés plutôt indulgents, ils n'ont même pas ouvert d'enquête à l'égard de Lewis Hamilton. Le championnat est plié, ce n'est pas grave, mais en tout cas c'est important de le souligner.
Et puis Kimi Raikkonen ne s'est pas peut-être plaint aussi ouvertement que Carlos Sainz.
Il se plaint jamais.
À mon avis, c'est aussi qu'il n'a pas levé à ce moment-là, il n'a pas perdu de temps, il avait failli avoir un accident, mais il n'a pas levé, il n'a pas perdu de temps, donc tout ça au final n'a affecté personne directement.
Tiens, je vous propose messieurs d'écouter Sébastien Vettel, justement auteur de la deuxième performance hier en qualification, l'Allemand.
Je pense que c'était osé de chausser les pneumatiques tendres pendant la Q2, mais je suis très heureux qu'il nous ait permis de passer en Q3 et surtout, nous allons pouvoir nous élancer avec. Enfin, si la piste est sèche, nous sommes à Interlagos, on ne sait jamais. La qualification était très serrée, nous avons manqué la pole d'un rien, mais nous avons l'avantage avec nos pneus et notre rythme de course est bon. Nous verrons ce que nous pouvons faire.
Alors, Mercedes-Ferrari sur la première ligne, même schéma sur la deuxième ligne avec Valtteri Bottas devant Kimi Raikkonen. Ça aussi, ça va avoir son importance, cette justement ce classement sur à l'issue des qualifications, parce qu'il y a ce fameux titre constructeur qui se joue.
Et oui, ça n'est pas joué, il y a un bel avantage pour Mercedes naturellement qui tient pour le moment la rampe, hein. La balle est dans le camp de Ferrari. Honnêtement, on peut dire que c'est joué à au moins 90%, à moins d'une catastrophe pour Ferrari. Mais je le disais, c'est délicat ce tracé parce que il est court, donc c'est un rythme incroyable. Il y a les S de Senna qui succèdent au départ, les pneus ne sont pas en température. On a vu plusieurs années des pilotes commettre des erreurs dans cet enchaînement. Et ce que je disais, Adri, c'est qu'effectivement, il va falloir que Hamilton ne rate rien, parce que je pense que Vettel a faim de tout, là. Et là, pour le coup, moi, je ne l'en voudrais pas de commettre une erreur, parce qu'on ne joue plus le titre, on joue la gagne.
Oui, mais on l'a vu très concentré quand même hier, à part les deux petites erreurs, peut-être de gêne d'autres pilotes. On l'a vu quand même arriver à tirer le maximum de sa monoplace. Et puis, il aura un avantage au départ, celui de partir avec les pneumatiques super soft. Par rapport à Sébastien Vettel, la mise en température des pneus,
ça peut jouer comme à Austin, mais en sens inverse.
C'est des pneus plus tendres qui, certes, sur la longueur du relais, sera un désavantage pour les Mercedes a priori, puisqu'ils pourront couvrir 7 tours à mon avis de moins que les pneumatiques soft de Vettel et de Raikkonen. Par contre, sur les premiers tours, la mise en action sera en théorie meilleur, mais ça c'est la théorie, et comme tu le dis, la pratique à Interlagos c'est toujours différent, et c'est un circuit qui se prête vraiment à de belles courses et à de belles passes d'armes, aussi avec cette longue ligne droite qui n'est pas vraiment droite d'ailleurs,
et qui est en montée gauche,
où le phénomène d'aspiration fonctionne très bien.
Lucas, on peut rappeler quand même qu'on a 4 pilotes en 175 millièmes, ce qui est incroyable, moins de 2 dixièmes, c'est rarement voire jamais arrivé de toute la saison de mémoire, hein. Donc ça veut dire que cette bataille entre les écuries, en l'occurrence entre les pilote évidemment, mais entre les écuries, est à son paroxysme.
Oui, en qualification, tu le dis, ça a jamais été aussi serré de l'année. Ça s'explique aussi parce que c'est un circuit qui est très court, seulement 1 minute 7 281 pour Lewis Hamilton hier, le temps pour signer la pole position. Mais en course, ça devrait être serré aussi parce que les rythmes de course étaient quasiment semblables entre Mercedes, Ferrari et Red Bull, excepté Ferrari. Attention, il va falloir se méfier parce que la Scuderia Ferrari a montré d'étonnants signes de faiblesse sur la dégradation des pneumatiques, que ce soit en essai libre 1 ou en essai libre 2, une grosse dégradation des pneus arrière que Ferrari n'a pas nié. Alors semble-t-il on a trouvé une solution, on verra ça, mais si c'est comme ce qu'a connu Mercedes à Austin cette année, ça pourrait s'avérer préjudiciable dans l'optique d'une victoire.
Très bien messieurs, est-ce que vous voulez qu'on continue à dérouler cette grille de départ,
notamment
la troisième ligne?
Je vous pose la question.
Mais voilà, c'est pour ça que je vous la pose.
Mais plus
Verstappen, Ericsson sur la troisième ligne, le coéquipier justement de Charles Leclerc. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur Charles Leclerc qui a réalisé une séance de qualification exceptionnelle, devancé donc par Ericsson. Peut-être anecdotique, on se dit. Non, pas tant que ça.
Oui et non.
Oui et non. Écoute, franchement, là, Ericsson, il a fait preuve d'une performance et d'une constance, hein, et depuis le début, il a bien progressé, il faut le reconnaître, en fin de saison. Autant on s'émerveille sur les performances de Charles, bien sûr, qui justifie une nouvelle fois cette montée chez Ferrari. On est tous déjà très avides de voir cette confrontation entre Vettel et Charles Leclerc chez Ferrari. Mais pour le moment, Ericsson relève très très bien le gant et se révèle un équipier coriace pour Charles. Charles, et c'est très bien.
Et ouais. Surtout, ouais, ça souligne la performance de Charles, puisque hein, Marcus Ericsson est capable d'être sixième sur le grid d'un Grand Prix de Formule 1 avec une Sauber, qui certes maintenant est devenue une des meilleures voitures après la Red Bull. Et ça montre, ça souligne aussi le bon boulot et le boulot extraordinaire que Frédéric Vasseur.
Tu me l'enlèves de la bouche, j'allais. Je te laissais terminer, c'est exactement ça.
À la tête de cette équipe, c'était mon chef d'équipe, mon propriétaire d'équipe quand j'étais en Formule 3 avec Art Grand Prix, écurie dont il est toujours propriétaire, et c'est vraiment un mec formidable pour rassembler les forces d'une équipe et arriver à développer une voiture comme la Sauber qui au début de la saison était loin d'être performante. Certes, maintenant il y a le vrai soutien de Ferrari et même le changement de nom Sauber Alfa Romeo du groupe Fiat, mais c'est quand même une performance extraordinaire.
Pour signaler également la position de Marcus Ericsson, et Lucas, on peut y revenir, il faut rappeler que Ricciardo a été frappé d'une pénalité, une nouvelle. Ouais. Alors c'est paradoxal, hein, d'ailleurs, Lucas, la raison...
En 11e position.
Voilà, la raison pour laquelle Ricciardo se retrouve avec 5 places de retard. Là, pour le coup, enfin, j'allais dire, il y est pour rien, l'équipe non plus.
Oui, c'est vrai. Bah c'est la malchance de Ricciardo qui continue malheureusement. Il a dû changer son turbo puisque il a abandonné au Mexique et les commissaires ont utilisé l'extincteur de façon un petit peu abondante et ça a endommagé tout simplement le turbo. Et Renault a conseillé à Red Bull de changer ce turbo puisque normalement avec ce genre de phénomène au bout de 400 km le turbo lâche. Donc malheureusement Ricciardo est frappé d'une pénalité, 8 abandons cette saison. C'est vrai que c'est un peu la chkoumoune pour lui. Il partira en 11e position, Daniel Ricciardo. Il essaiera de remonter rapidement, mais c'est vrai que pour aller jouer devant et chercher un podium, ce sera compliqué.
Et là, Arnaud, pour une fois, on peut dire que Christian Horner ne peut pas taper sur la tête de Renault, puisque Renault n'y est absolument pour rien. On vient d'évoquer cet incident bizarre. Et puis, on
Verstappen
reste quand même
s'en charge.
Voilà, la victoire de Verstappen, quand même aussi, il faut le rappeler, après un Grand Prix formidable. Encore une fois, passé peut-être un tout petit peu au deuxième plan à cause de la bataille pour le titre, évidemment, remportée par Hamilton. Et depuis les pages, j'allais pas dire les tréfonds du classement, mais bon, dans un deuxième rang, mais quand même une nouvelle victoire, Red Bull, Renault. Peut-être la dernière, on le saura.
Un tout petit mot en parlant de Renault, enfin l'ancien de Renault, Alonso, qui s'élancera très très loin sur la grille en 17e position, le double champion du monde, l'Espagnol. Une nouvelle fois, c'est loin, hein, Fernando Alonso. Hein.
Écoute, il fait tout ce qu'il peut, on le sait, et Stoffel Vandoorne, sur lequel on va pas taper non plus, le pauvre lui qui doit quitter la Formule 1, évidemment, alors que c'est un pilote qui a enregistré des résultats formidables. C'est pour ça que c'est toujours difficile quand on nous demande et un tel, qu'est-ce qu'il va donner en Formule 1? Ça dépend de l'équipe dans laquelle il est, et là, McLaren, je le répète toujours, est au fond du trou, et le mot est faible. Tiens, d'ailleurs, pour distraire un peu, parce qu'on aime bien faire ça chez McLaren, c'est de la com, on a annoncé que ça y est, finalement, on va engager à nouveau Fernando Alonso au 500 miles la police. Lucas, bon, on s'y attendait un peu, hein, de toute façon, en fin, ça va tellement mal qu'il faut bien trouver quelque chose, faut bien agiter des hochets un peu ailleurs, tu es d'accord?
Oui, c'était un secret de polichinelle, mais attention, hein, parce que quand Fernando Alonso avait participé aux 500 miles d'Indianapolis, il avait connu les mêmes mésaventures qu'avec son moteur Honda en Formule 1. Donc attention à McLaren, ouais. ça peut aussi être une mauvaise pub. Non, mais c'est vrai que Stoffel Vandoorne, c'est comme vous le disiez, c'est très étonnant parce que dans les formules de promotion et en F2, il avait été vraiment exceptionnel. Et même Fred Vasseur, dont on parlait tout à l'heure, disait, moi, c'est un pilote que j'aurais engagé en Formule 1, extrêmement complet, très précis dans les retours. Et ça marche pas pour lui. Malheureusement, il va s'orienter vers la Formule E, mais bon, c'est vrai que la voiture ne l'aide pas.
Il faut vraiment se pencher, hein, sur les résultats, les chiffres en eux-mêmes. Là, il est 20e sur la grille, il est dernier certes, mais il est à moins de 2e de Fernando Alonso en qualif.
Alors c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. C'est déjà une performance. Ça veut tout simplement dire que le pilote n'est pas mauvais, loin de là.
Et c'est
qu'après,
clair.
Quand on est avec cette voiture, cette McLaren, c'est compliqué quand même de rester dedans tout au long de la saison. On n'a rien pour se battre en l'occurrence. Et ce qui est triste vraiment, c'est de voir quand même que les deux écuries emblématiques anglaises, Williams et McLaren,
au fond du trou,
sont les deux pires écuries.
C'est terrible, tu as raison de dire ça.
Il faut vraiment faire quelque chose pour l'histoire aussi de la Formule 1, c'est important.
Et on ne sait même pas si on est aujourd'hui capable, l'ancienne grande équipe McLaren, d'aligner deux voitures pareilles, si tu vois ce que je veux dire aussi.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC Motors jusqu'à 14h comme tous les dimanches, à 7h-ci comme tous les dimanches avec Jean-Luc Croix. Ça va Jean-Luc?
Eh ben ça va formidablement bien puisqu'on a encore une petite grille à dérouler et que les Français sont plutôt bien.
Et plein de belles choses aussi, je vous donne le programme dans une vingtaine de minutes, Radio Paddock avec Benoît Boutron, avec Marvin Musquin, pilote français de MX et de SX, vice-champion des États-Unis 2018. Il sera avec nous au téléphone depuis la Floride pour parler du Supercross de Paris, au Paris La Défense Arena. Ça sera le week-end prochain. On va également parler tout à l'heure du rallye d'Australie, également le week-end prochain, avec un Français, Sébastien Ogier, qui est au coude à coude avec un Belge, Thierry Neuville, pour s'adjuger un nouveau titre de champion du monde. Tout de suite, justement, les Français, on en parle, les Français de la Formule 1.
RMC Motors, le French's Corner.
Petite Marseillaise, ça fait jamais de mal, parce que depuis tout à l'heure, on entend l'hymne brésilien à tout bout de champ, là, du côté d'Interlagos,
et grâce au micro de Lucas. Malheureusement, il n'y a plus de pilote.
Il n'y a plus de pilote, c'est vrai. Depuis Felipe Massa, effectivement. Ouais. Et ça faisait un petit moment que le Brésil n'avait pas connu une telle disette. Le French's Corner, avec les positions donc de nos Français et des nouvelles un petit peu aussi de ce qu'ils sont, ce qu'ils vont devenir dans les semaines et les mois à venir. Donc sur cette grille de départ, je le disais, le Monégasque Charles Leclerc qui a réalisé le 7e temps des qualifications. Il s'élancera en quatrième ligne devant Romain Grosjean. Parlons Charles Leclerc, parce que franchement, sa séance de qualif hier, quand même, c'était du grand art.
Écoute, là, une nouvelle fois, il a impressionné en Q2 avec une piste qui commençait à se mouiller. Il y avait des menaces, il y avait certains virages qui étaient, même si effectivement avec la température, ça n'a pas dégradé, la preuve, sinon il n'aurait pas réussi à améliorer, mais il a réussi à se sortir d'une mauvaise passe en Q2 pour monter précisément en Q3 et décrocher cette pole. Non, une nouvelle fois, il n'a pas failli, il n'a pas faibli, il a été d'une force mentale, et on le sait, c'est l'un de ses atouts, d'une lucidité et puis d'un talent. Adrien, je crois qu'on on le répète.
Bah là où il est très fort, oui, c'est quand il y a un peu plus de pression, et c'est bon signe pour l'année prochaine, parce que tout simplement en Q2, pour la première fois de l'année, il allait être sorti de cette Q2, alors que son coéquipier était assuré d'aller en Q3. Voilà, il avait plus qu'un tour sur des pneus qui n'étaient plus neufs, sur lesquels il avait déjà roulé, il avait déjà fait un tour de sortie. Donc sur le papier, une piste qui commençait à être un peu plus détrempée qu'elle n'était avant. Elle séchait peut-être un peu parce que la pluie s'était arrêtée, mais pas complètement. Donc c'était vraiment, il fallait sortir un vrai tour, surtout dans le deuxième et le troisième secteur, parce que le premier était encore un peu mouillé. Ouais. Il l'a fait, il est passé en Q3. Après, la performance en Q3, on ne sait pas si c'est Ericsson qui a élevé son niveau de jeu, qui d'un coup a réussi à... Parce que c'est très rare
qu'il
devance en qualification à la régulière, parce qu'en Q3, tout était à la régulière, avec les mêmes trains de pneus. Ou si Charles s'est raté peut-être sur son tour qualif, mais dans tous les cas, ça montre que cette Sauber est devenue une très très bonne voiture. Et là, 6e et 7e sur la grille, c'est Fred Vasseur qui doit être très heureux.
Je vous propose d'écouter Charles Leclerc, parce qu'il est un petit peu comme vous, c'est-à-dire à la fois satisfait de cette Q2 et un petit peu mitigé après la Q3.
Il pleuvait vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'étais vraiment content. Je pense que j'ai jamais autant crié dans un casque que dans le dernier tour de la Q2 quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Donc c'était bien, mais bon, après un petit peu frustrant en Q3 parce que j'ai fait quelques erreurs que je devais pas faire.
Lucas, tu témoignes puisque c'est toi en plus qui a rencontré Charles Leclerc juste après cette séance de qualification hier à Sao Paulo. Tu témoignes de sa performance quand même à l'issue de la Q2, toi qui étais au bord de la piste, tu l'as bien vu, hein.
Oui, puisque il est un des rares pilotes à avoir amélioré. Il y a Hülkenberg qui a amélioré, sauf que Charles Leclerc a amélioré son temps de façon significative, à tel point que ça lui a permis de rentrer en Q3, ce qui est quand même dingue dans les conditions de piste qui étaient celles d'hier. Et après un premier secteur où il était en retard, les pilotes le voient sur leur volant quand ils sont en retard après le premier secteur. Donc il faut pas se démobiliser, il faut rester concentré. Il a été capable de le faire. En tout cas, en plus, il a été beau joueur, Charles Leclerc, puisqu'il a dominé Marcus Ericsson depuis le début de la saison en qualification, 16-4 en faveur de Charles Leclerc. Mais il a dit, Marcus hier a fait un tour absolument exceptionnel, bravo à lui. Mais surtout, l'information, c'est que Sauber, ici au Brésil, est la quatrième force du plateau après les trois fantastiques.
Et oui, ça c'est absolument génial, et Adrien, rendez hommage à Fred Vasseur et à toute l'équipe. Effectivement, Sauber, il y a 2 dixièmes d'écart, et c'est pour ça que Charles ne pouvait pas être totalement satisfait de sa Q3, il l'a dit, hein, puisqu'il le sait, lui il sait que là Ericsson, non seulement il a fait un super boulot, ça c'est clair, mais en plus lui c'est un peu loupé, quoi. C'est ce qui fait le résultat.
On va se régaler avec ce pilote là chez Ferrari.
Ça va être... Moi je me mouille, hein, c'est le cas de le dire, ça va être génial. Écoute, de toute façon, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas eu, et on va parler de Pierre Gasly évidemment chez Red Bull dans un instant, mais qu'on n'a pas eu des pilotes français dans de bonnes écuries avec de bonnes machines, si tant est que ce soit le cas l'an prochain, mais capables de se battre pour la victoire. Donc on s'en pourlèche les babines, et puis l'affrontement avec Vettel là aussi, on est plusieurs, je sais que Adrien et Lucas sont forcément du même avis, à dire attention à Vettel, hein, parce que Charles il va pas avoir le bras qui tremble, hein, pour reprendre des parallèles avec le tennis.
Écoute, comme Vettel, il fut tentant aussi à pousser d'autres pilotes plus plus expérimenté. Voilà, je pense à Sébastien Bourdais notamment. Voilà,
bien sûr. Bah oui, chez Toro Rosso dans les 2009.
Effectivement. Tiens, on va écouter Romain Grosjean lui parce qu'il va s'élancer de la 8e position sur la grille de départ tout à l'heure à 18h10 donc de ce Grand Prix du Brésil. Assez satisfait, Romain Grosjean, l'écoute.
En Q2, la voiture était extraordinaire. Alors, on a eu un problème sur le premier tour en Q2. Je suis passé sur le vibreur dans le virage 3. Le bouton d'éteinte du moteur s'est mis en position off. Donc, j'ai tout perdu. Le temps que je réalise, on est rentré au stand. On a remis un train de pneus. Donc, j'avais qu'une chance en Q2. C'était un peu de pression. Mais la voiture était extraordinaire. Et en Q3, on n'a jamais retrouvé ça. Donc, il faut qu'on regarde si le vent a changé un petit peu. Si les pneus n'étaient pas sur la même fenêtre d'utilisation. Mais c'est vrai que c'est difficile. On parle de 3e au tour. C'est pas grand chose. Mais c'est difficile de comprendre pourquoi à un moment on est super content. Et puis, le round d'après, en ayant rien changé, c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, pour le pilote de Haas, que dire de sa séance de qualif, Adrien?
Tout simplement très bonne, parce qu'il devance Kevin Magnussen et que c'est compliqué de devancer Kevin Magnussen. Il est le premier français, vrai français sur la grille, et si on peut le dire, parce qu'il est aussi un peu suisse. Romain a fait une très bonne qualif et il a devancé Kevin Magnussen de près de 2 dixièmes, donc rien à dire. Maintenant c'est la course qui va importer. Une fois de plus, hein, cette Haas qui était censée peut-être au début de la saison être la 2e écurie Ferrari a été dépassée par la Sauber qui est peut-être devenue maintenant, grâce à la vraie deuxième écurie Ferrari, avec un Kimi Raikkonen l'année prochaine qui sera dans cette voiture.
Tu as raison, c'est tout à fait possible qu'on voit ça. Effectivement, Haas, on sait que c'est une petite équipe, hein, comme Sauber, enfin avec des moyens plus limités.
Petite et jeune équipe,
il faut le rappeler. Donc c'est tout un hommage qu'on leur rend, évidemment, parce qu'ils obtiennent de bons résultats quand même. Mais on va le rappeler, toutes les opportunités ratées dans la première moitié de la saison, ça leur coûte très cher aujourd'hui malgré tout.
Effectivement, on va parler de la 5e ligne avec Pierre Gasly, donc qui a signé le 9e temps hier de cette séance de qualification sur sa Red Bull Toro Rosso Honda. Pierre Gasly qui encore une fois lui aussi fait plutôt une bonne performance. Enfin, encore une fois, c'est pas toujours le cas, mais c'est pas la première fois qu'il fait une bonne performance comme ça en qualif.
Écoute, le talent de Pierre n'est plus à démontrer, y compris en F1, puisque lui aussi, voilà, il fait partie, comme Stoffel Vandoorne, enfin, on l'a dit, comme tous ceux qui arrivent, hein, on va parler de Lando Norris déjà pour l'an prochain et etc. On peut dire que il confirme grand prix après grand prix son talent quand la mécanique le lui permet. On peut constater que le moteur Honda, effectivement, est plutôt en bonne forme, parce que là, il y a cette longue montée dont Adrien parlait tout à l'heure, où il faut quand même des chevaux, hein, pour sortir du dernier virage et atteindre 320-330 km/h en vitesse de pointe, avec un bon châssis. C'est une petite équipe, hein, Toro Rosso. Faut jamais confondre avec Red Bull quand même. Donc je pense, Lucas, que c'est un bel hommage. Puis surtout, on a un beau tir groupé des francophones. Là, Leclerc, Grosjean, Gasly, là on peut se faire plaisir.
Ouais, 7, 8 et 9. De toute façon, pour la Toro Rosso, c'était un petit peu compliqué de savoir ce qu'elle valait vraiment sur les derniers Grands Prix, que ce soit Brandon Hartley ou Pierre Gasly. Ils étaient tout le temps pénalisés, changement de bloc propulseur à chaque fois, relégués en fond de grille. Sur des circuits, il est pas forcément facile de dépasser. De toute façon, en Formule 1, c'est difficile de dépasser avec l'appui aérodynamique de ces monoplaces. Mais ce qu'on peut dire cette année pour Pierre Gasly, maintenant qu'on aborde la 20e manche de ce championnat du monde, c'est qu'à chaque fois qu'il en a eu la possibilité, il était là. Il a répondu présent. C'était le cas à Bahreïn, c'était le cas lors d'autres Grands Prix. Ici encore au Brésil, il le montre. Il est un petit peu inquiet par rapport au rythme de course, mais on sait qu'il va tout faire pour essayer d'aller chercher des points.
Et on va juste rappeler qu'il a pris un point quand même au Mexique, parce que ça aussi s'était passé un peu à l'as avec le titre et la bataille devant. Il est parti dernier, il termine 10, hein. Donc c'est quand même pas si mal.
Tiens, on va l'écouter justement sur le départ de ce Grand Prix. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour Pierre Gasly, notamment pour au moins espérer conserver cette position?
Faut mettre un peu de pression sur la pédale de frein histoire de pas bouger et après être bien coordonné au moment où on lâche l'embrayage et on appuie sur l'accélérateur, parce que si on reste sur les freins, du coup ça se passe pas très bien. Mais ça rajoute un peu d'excitation.
Ça rajoute un peu d'excitation. Excité, talentueux, Pierre Gasly, faut le dire et le répéter aussi, Adrien, parce que c'est important. On parle beaucoup de Charles Leclerc qui, effectivement, a priori avec une voiture peut-être un peu plus faible, a réussi de meilleures performances. Mais Pierre Gasly, c'est aussi clairement l'avenir de la F1 française.
Hein. Bah, clairement, et je crois que Red Bull lui donne sa chance. Enfin, on le répétait, on le répète à chaque fois, mais avoir un Français comme ça dans une écurie de pointe, parce que Red Bull est clairement une écurie de pointe. Ils ont gagné le dernier Grand Prix. Il va avoir l'opportunité l'année prochaine de montrer sa vraie valeur. Alors cette année il l'a déjà montré, mais par rapport à son coéquipier à qui il a fait boire la tasse toute l'année, Brendan Hartley.
Régulièrement.
D'ailleurs, on a toujours pas de confirmation sur l'année prochaine. Alors il y avait un accord qui n'était pas signé entre Brendan Hartley et Toro Rosso, mais j'ai l'impression vraiment que Toro Rosso aimerait se défaire de Brendan Hartley. Après il y a des histoires d'honnêteté intellectuelle, je pense, en ce moment même, qui pourrait être questionné, mais en tout cas, ouais, Pierre Gasly, c'est vraiment la performance cette année, la meilleure performance française en tout cas, parce que Charles est quand même monégasque, mais c'est la meilleure performance française cette année.
Ouais, ouais. Enfin, je pense que effectivement, tu parlais de scrupules moraux. Je pense que le docteur Helmut Marko n'en a pas eu beaucoup dans le passé.
Et là, en fait, Brendan Hartley s'est dégagé d'un contrat en IndyCar pour signer cette année.
On va le dédommager.
Mais en prenant même des risques financiers. Et il a signé sur 2 ans. Donc c'est la question qui se pose et on essaye quand même de respecter ça chez Red Bull. Alors peut-être qu'on essaie de le trouver une autre solution.
Et puis on est embêté pour trouver quelqu'un pour le remplacer aussi. Il faut être clair. Hein. Dans le sérail, on n'a pas forcément ce qu'il fallait. En tout cas, il a fêté ses 29 ans, Brendan Hartley. Et puis on rappelle que c'est un super pilote d'endurance. Lui aussi, c'est un très bon pilote. Hein, c'est un super gars.
Tiens, pour terminer sur Pierre Gasly, est-ce qu'il s'imagine un seul instant, pourquoi pas, rivaliser dans cette course avec les tout meilleurs? On va l'écouter.
Ça va être compliqué, c'est sûr, parce qu'avec les moteurs Ferrari ce week-end, ils sont vraiment vraiment au-dessus. Entre les Haas et les Sauber, on les a vus depuis le début du week-end, ils sont vraiment très compétitifs. Mais bon, il va falloir se bagarrer, un bon départ. Il y a la stratégie et puis je crois qu'on part 9e avec la pénalité de Daniel. Donc on va se bagarrer dur et j'espère qu'on va pouvoir aller chercher des points.
Je rappelais, parti dernier, fini 10e. Quand on part 9e, on finit où?
Mieux que le podium, c'est ça?
Ah non, mais on finit, on l'espère pour lui. Si effectivement la stratégie et puis la dégradation des pneumatiques dont on a tellement parlé sur ce tracé-là, si la course vient un petit peu dans son sens, il peut faire mieux que sa place de départ, ce qui sera déjà pas mal.
C'est à Monaco qu'on lui avait promis l'enfer. Qu'on lui avait promis l'enfer, il avait réalisé le 6e temps de mémoire sur la ligne de départ et il avait réussi à terminer 6e, alors qu'on lui avait promis l'enfer, clairement.
C'est exactement, tu abondes dans ce que je disais à l'instant, s'il fait mieux que sa place de départ, ce sera génial.
Alors il y en a un pour le coup côté des Français qui je sais pas si on peut vraiment parler de déception, en tout cas il est très très loin sur la grille de départ, c'est Esteban Ocon qui s'élancera en 9e et avant-dernière grille, en 18e position sur sa Force India, loin de son coéquipier d'ailleurs, 12e Sergio Perez le Mexicain. C'est vraiment peut-être pour son avant-dernier Grand Prix de Formule 1, parce qu'on sait jamais, hein, Esteban Ocon a priori il a toujours pas de baquet pour la saison prochaine, on sait pas s'il aura un baquet, et encore moins pour les saisons suivantes. Quelle déception quand même pour ce pilote.
Oui, là malheureusement les Force India Mercedes ne fonctionnent pas bien, puisque la position de Sergio Perez en atteste, même s'il est 12e, hein, mais on rappelle que Esteban là aussi a pris une pénalité, malheureusement, ça n'a pour un changement de boîte de vitesse, donc il se retrouve 18e sur la grille. Écoute, il va falloir des événements en sa faveur pour qu'il puisse s'en sortir. Tu peux pas titiller ta grenouille, Lucas, pour qu'un petit peu de pluie vienne pimenter ce Grand Prix du Brésil? Moi j'en prendrais bien une petite lichette là.
Bah lui il attend bien évidemment. Esteban Ocon, il part 18e, il est pénalisé. Et puis il faut dire que la Force India depuis quelques grands prix fonctionne un petit peu moins bien. Là c'est la fin de saison, peut-être que le développement, enfin c'est même sûr, le développement est basé sur l'année prochaine. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais c'est un petit peu compliqué. Après, concernant son avenir, voilà, on le connaît, hein, il ne roulera pas en tant que pilote titulaire l'année prochaine, à moins d'une énorme surprise. Voilà, c'est sûr que c'est un peu triste pour lui. On sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais bon, en tout cas son entourage travaille pour 2020.
Adrien, je te vois.
Oui, enfin en tout cas, même si Esteban avait encore une faible chance de signer avec Williams il y a quelques semaines, ça semble vraiment être maintenant compromis.
Et on reparle de Kubica.
On reparle de Kubica tout simplement parce que il y a un sponsor principal, une marque de boisson qui était censée devenir sponsor de Williams, sponsor titre de Williams, qui au final va aller chez Force India, si j'ai bien compris.
Marque de poisson inconnue, de boisson, oui, je dis bien, pas de poisson inconnue, en tout cas un peu particulière. Oui. On est un peu étonné de voir arriver.
Et du sort, en plus, elle va chez Force India, là où l'argent a déjà fait les malheurs d'Esteban Ocon, parce que c'est le fils troll qui va prendre sa place.
Et puis il y en a une qui va chez Haas aussi, il y a cette marque, je crois que c'est chez Haas qu'elle va en fait.
Ah, elle va chez Haas, pardon.
Oui, cette marque de boisson, oui.
Bon, sponsor va chez Haas.
C'est un peu mystérieux.
Dans tous les cas, maintenant, on est dans une situation chez Williams où on a besoin à nouveau de l'argent de Kubica. et des soutiens polonais, des sponsors polonais que le pilote pourrait apporter. C'est aussi une belle histoire hein, d'avoir Robert Kubica à nouveau en Formule 1 et voir ce qu'il peut faire.
Mais on parle aussi d'Esteban Gutiérrez, le Mexicain qui amène aussi beaucoup d'argent en F1, qui a déjà roulé et apparemment ça se jouerait entre lui et peut-être Kubica, même si Kubica on en parle un petit peu moins, mais Esteban Gutiérrez pourrait
c'est
monter
dans le
paquet de la deuxième Williams.
Ouais. Et en tout cas Esteban Ocon c'est toujours lui le titulaire du baquet chez Force India il va avoir une mission aujourd'hui. Esteban Ocon, il va tenter de faire mieux que cette 18e position sur la grille de départ.
Doubler c'est difficile, mais il va falloir qu'on le fasse, il va falloir qu'on puisse remonter, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que partir 18e ici c'est sûr que c'est compliqué, mais voilà, l'objectif c'est de remonter. On sait jamais ce qui peut arriver, il peut pleuvoir, s'il pleut tout est possible et c'est possible quand même le dernier gagne la course.
Eh ben voilà, on l'a dit, c'est la météo hein.
C'est une nouvelle pour Stéphane Vandoorne.
L'histoire des grenouilles, mais agite ta grenouille toi aussi.
Écoute, loin, moi je fais ce que je peux, mais je suis loin là.
Allez, merci Lucas. Rendez-vous tout à l'heure à 18h10 pour le départ de ce Grand Prix de Formule 1 du Brésil.
RMC Motors Arnaud Jean Lecroix.
La dernière ligne droite de Motors jusqu'à 14h. Il est 13h46. Et oui, déjà, bienvenue si vous nous rejoignez. Bah, en même temps, la dernière ligne droite, il faut dire qu'on a pas mal tourné là dans les virages du circuit d'Interlagos au Brésil. On va se concentrer un peu sur le reste, justement, Jean-Luc et Adrien, de l'actu des sports méca.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et pour ça, on l'accueille sur sa grosse cylindrée. Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut les gars.
Salut Benoît.
Alors, on va parler, messieurs, dans un instant, on sera avec Marvin Musquin, pilote français de MX et de SX, vice-champion des États-Unis en 2018. On va parler de Supercross, Benoît, parce que il y a le Supercross de Paris, au Paris, la Défense Arena, c'est le week-end prochain. Alors, de quoi parle-t-on exactement?
Alors, déjà, ça sera sur deux jours, le 17 et le 18 novembre. En fait, le Supercross, c'est un dérivé du motocross. Hein. C'est né aux États-Unis. C'est une piste artificielle qui est habituellement dans une salle, hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est du show à l'américaine, c'est fantastique. C'est une épreuve très physique d'endurance en motocross et c'est vraiment très très spectaculaire. Et effectivement, ce sera donc le week-end prochain en France. L'année dernière, il y avait plus de 40 000 spectateurs. C'est encore à Bercy. C'est la première année au Paris La Défense Arena. La deuxième année, pardon, effectivement. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est le plus grand supercross d'Europe. Donc c'est un réel événement pour tous les fans de motocross. Et la chance qu'on a, c'est justement que l'an dernier, on a eu un triomphe français avec la victoire de Marvin Musquin, qui justement est avec nous, je crois.
Il est avec nous, effectivement. Merci Benoît. Et j'ai un grand plaisir d'accueillir effectivement quelqu'un qui a été double champion du monde de motocross également. Salut Marvin.
Bonjour à tous. Merci
bonjour.
Écoute, c'est très sympa à toi de te réveiller tôt. Hein. Je sais ce que c'est avec le décalage. Et puis, bon, tu vas revenir évidemment vers l'Europe et vers la France. Alors, j'ai envie de te poser déjà une petite question un peu plus générale sur ta carrière. Je rappelais que tu as été double champion du monde en MX2. C'était effectivement il y a déjà quelques années. Puis après, tu as fait le choix extrêmement courageux de partir te mesurer aux pilotes américains aux États-Unis en suivant cela, évidemment tu n'étais pas né mais moi oui, un certain Jean-Michel Bayle. Alors pourquoi être parti aux États-Unis et justement qu'est-ce qui t'a décidé à aller affronter les meilleurs pilotes du monde là-bas?
Ben ouais, j'ai grandi en France et je suis monté de catégorie en catégorie et puis voilà, étant tout jeune je regardais les vidéos de Supercross aux États-Unis et puis voilà que bon, quand tu dis, c'est vrai que j'étais très très jeune quand, voire pas né, quand Jean-Michel Bayle, lui, était aux États-Unis, mais ensuite, il y avait des pilotes comme David Villemain, Stéphane Roncada, Tortelli et plein d'autres, et donc voilà, ils ont fait de très bons résultats là-bas, et moi, j'ai grandi aussi en faisant du supercross, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc voilà, c'était tout simplement un rêve de pouvoir enrôlé aux États-Unis et puis j'ai eu la chance de pouvoir être double champion du monde dans la catégorie 250 avec KTM et ensuite voilà, j'ai décroché un contrat et j'ai carrément déménagé aux États-Unis pour tenter ma chance et aujourd'hui ça fait tout juste voilà, pile poil 8 ans que je suis déjà aux États-Unis et j'ai fait beaucoup de saisons en 250 et là ça va être ma quatrième en 450 donc ça va être très important de pouvoir peut-être réaliser mon objectif ultime, c'est de gagner un championnat dans cette catégorie.
Et voilà, de gagner un championnat aux États-Unis devant les pilotes américains. Alors tu l'as évoqué, les États-Unis, c'est le Supercross. Benoît le disait tout à l'heure en présentant cette superbe épreuve, donc le Supercross de Paris, la Défense Arena. On rappelle que ce sera samedi, ouverture des portes au public à 15h, les essais de 15h30 à 18h et puis début du show à 20h. Et le dimanche, ça ouvre à 15h et puis pardon, à 11h30 pour le public et puis ça démarre à 15h. Justement, Marvin, le fait d'affronter les Américains chez eux, de surcroît dans des disciplines qui sont les leurs, hein, parce que le Supercross, d'ailleurs tu peux nous dire un mot des différences de pilotage entre le Supercross et le Motocross?
Mais, le Motocross c'est un extérieur et c'est sur des circuits, on va dire, ou des sites naturels, et voilà, on crée une piste, donc il y a beaucoup de vitesse, des sauts très 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 hauts et très très longs. Et voilà, on peut atteindre des vitesses très très hautes. Et ensuite, le Supercross a été créé et ça a été fait dans des stades, donc que ce soit des stades fermés ou ouverts. Donc du coup, c'est vachement plus petit, plus restreint et beaucoup plus de sauts. Donc il y a des hooks et beaucoup d'obstacles. Les circuits sont beaucoup plus courts aussi et physiquement, c'est beaucoup plus intense niveau pulsation, niveau cœur. Ça sera beaucoup plus haut qu'un motocross. Et donc voilà, donc c'est vraiment plus un show que le motocross, même si le motocross, ça peut être un énorme spectacle. C'est vrai que dans un stade, on peut évoquer plus de show avec le public, avec voilà des écrans, des feux d'artifice, etc. Donc voilà la grosse différence. Donc niveau moto... niveau moteur, c'est plus ou moins les mêmes. Par contre, niveau suspension, on aura des suspensions plus fermes, plus dures, pour absorber plus les chocs et les sauts qui sont plus raides en Supercross, en indoor.
Alors, tu es le tenant du titre, hein, on rappelle, c'est toi le King of Paris, effectivement, et cette année, tu as décroché le titre de vice-champion des États-Unis. Tu vas affronter des gens que tu connais bien, hein, comme Zach Osborne ou Justin Brayton, qui eux, ils sont nés là-dedans, dans le Supercross. Cette communion avec le public dont tu parlais, puisqu'évidemment, tu es pilote français exilé pour la bonne cause aux États-Unis, ça te fait plaisir de revenir. On rappelle que tu avais fait partie de l'équipe championne du monde aussi au motocross des nations, bien sûr, et tu l'as remporté devant ton public.
Oui, c'était en 2015 à Ernée, donc c'était vraiment un des plus beaux souvenirs en tant que pilote. Forcément, être champion du monde, c'est génial, mais là, par équipe, et en plus en France, c'était vraiment géant. Donc voilà, le Supercross de Paris, c'est le seul rendez-vous, la seule occasion pour moi de pouvoir revenir et revoir ce public français et pouvoir rouler en France. Le championnat américain, moi, l'entraînement hivernal est de décembre en janvier, et ensuite toute la saison de Supercross qui commence en janvier et la saison motocross qui se finit en août. Et du coup, c'est vraiment une très longue saison, et voilà, c'est pour ça que j'ai pas la possibilité de rentrer souvent en France, et ça, le Supercross de Paris, c'est vraiment une occasion parfaite pour moi de retrouver le public et un très bon entraînement aussi.
Ah ouais, c'est génial. Écoute, déjà, je dois te poser la dernière question. Ça passe vite, comme toujours, mais tu reviendras,
désolé,
Marvin. Tu nous parleras. Il y a encore tellement de questions à poser. Oui, c'est dommage de finir là-dessus, mais ça fait rien. Je sais que tu as été blessé, notamment ta première saison aux États-Unis, parce qu'il faut le rappeler, le motocross et le supercross, c'est quasiment le sport le plus difficile, le plus terrible au plan physique, hein, parce qu'il y a tout. Il y a non seulement le rythme, tu en parlais, mais il y a aussi les chocs.
Oui, bien sûr. Après, forcément, on est côte à côte avec les autres pilotes, donc c'est vrai que le motocross n'est pas un sport facile. C'est vrai qu'il peut y arriver d'accidents, des chutes, mais bon, nous sommes des pilotes professionnels, on s'entraîne vraiment le plus dur possible pour être au meilleur niveau possible, et voilà. Après, voilà, il peut y arriver des contacts avec les autres pilotes, et c'est ça qui fait partie du sport. Mais en tout cas, c'est vraiment un super spectacle. Et à la Rue Arena, on a vraiment un stade vraiment fantastique pour réaliser ce sport-là. Et voilà, et la communion avec le public est vraiment géant. Et voilà, j'avais des très bons souvenirs à Paris, à Bercy, et puis maintenant à la U Arena. L'année dernière, c'était vraiment géant, donc c'est vraiment un super rendez-vous.
Génial. Merci beaucoup, Marvin Musquin, de venir en tant que King de Bercy. Allez, ça va le faire encore cette fois-ci. Puis on te rappellera. Merci beaucoup de t'être levé tôt.
Voilà, Marvin Musquin, donc, qui nous appelait, enfin, qu'on appelait plutôt, qui est en Floride actuellement. Donc, c'était pour présenter le Supercross de Paris au Paris La Défense Arena. Ce sera samedi et dimanche prochain. Benoît, on va refermer Radio Paddock avec du rallye, donc WRC, championnat du monde. Là, il y a une lutte extraordinaire tout en
haut du classement général. Vous voulez du suspense, vous en aurez effectivement en Australie le week-end prochain. Ça va être fantastique, le rallye WRC d'Australie, avec Sébastien Ogier qui est en tête du classement des pilotes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pas forcément, puisque malheureusement en Australie, il va devoir ouvrir la piste et c'est toujours un désavantage. On rappelle qu'Ogier est leader du classement avec 3 points d'avance sur Thierry Neuville. Autre précision importante, si jamais il y a une égalité, puisque ça peut arriver avec l'attribution des points en WRC, c'est-à-dire si Neuville marque 3 points de plus que Ogier, ce sera déterminé en fonction du nombre de rallyes remportés. Et là, c'est le Français qui s'impose.
Quoi qu'il arrive.
Il a remporté 4 rallyes et Neuville seulement 3.
Donc, et oui, mais si Neuville en remporte un quatrième.
Ah oui, mais quoi qu'il arrive, s'il gagne, de toute façon, il gagnera, puisqu'il y a 7 points d'écart entre le vainqueur et le deuxième. Okay. Donc, quoi qu'il arrive.
Très
et surtout
bien.
Si ça se passe entre le troisième et le quatrième, ou le quatrième ou le cinquième. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer en Australie. Ça va être fantastique. Est-ce que c'est un réel désavantage, Jean-Luc, d'ouvrir la piste en Australie?
Écoute, j'ai posé la question la semaine dernière à Julien Ingracia, donc le copilote de Sébastien Ogier. Alors évidemment, c'était très difficile de calculer à ce point-là pour être deuxième. Et puis, comme quand tu sais, quand t'es un pilote et un champion, quand t'as des points à prendre, tu les prends. Ils se retrouvent devant, ils vont faire avec. Ils ont l'habitude en plus, comme tu le sais, ils ont aligné 5 titres de champion du monde consécutifs. Donc partir devant avec ce handicap que tu évoquais, de nettoyer la piste et d'ouvrir la piste, c'est que le premier jour. Et puis eux d'être bons, à eux d'être très bons, je crois que ça va être absolument fantastique. Il faudra se lever tôt dimanche prochain pour suivre ça.
Messieurs, il est temps de se dire au revoir. Ou plutôt à tout à l'heure. Bon non, parce
à tout à l'heure. Voilà.
Ça vient. C'est tout à l'heure le Grand Prix du Brésil. On se retrouvera avec Adrien, avec Jean-Luc, Benoît. On se retrouve évidemment tout au long de l'après-midi.
Évidemment.
Dans les flash sports, voilà. L'inimitable Benoît Boutron. Il est là de passer la main.
Ah oui, mais c'est vrai, il est inimitable.